Cuisin, huitième ombre sanglante, les victimes sanglantes de Bellone, ou la mort glorieuse du prince Poniatowski. Tout l'éloge d'un héros est renfermé dans son nom. Déjà, le Burin, la peinture, les sans-voix de la renommée ont publié dans l'Europe entière que le prince Joseph Poniatowski, nouvel Horatius Coclès, mais moins heureux, s'était choisi un tombeau glorieux dans le fleuve de l'Elster à la bataille de Leipzig, et que, par un dévouement héroïque, il avait préféré un illustre trépas à une captivité honteuse. Déjà, dis-je, la Pologne entière, fière d'avoir donné naissance à ce héros, lui a érigé des statues et les plus habiles artistes viennent récemment de reproduire à Varsovie, dans un marbre vivant, les traits d'un guerrier que le monde admire. Hommages insuffisants. Laurier fragile, votre éclat n'est pas encore digne du front auguste que vous couronnez, et ni le marbre ni l'airain ne seront pas des monuments assez durables de la gloire de Poniatowski. Pour chanter un Ajax, il faudrait un Homère. Ce serait donc à la lyre d'un beau génie poétique à célébrer dans des accords belliqueux cette triple bataille où le bronze de 20 peuples ligués suffit à peine à éteindre les foudres de la grande nation, où des masses d'infanterie cosmopolite hérissées de fer et enflammées de poudre firent pendant 3 jours de vains efforts pour arracher de vive force la victoire à une armée qui peut-être triomphait encore si de son sein même il ne fut sorti des ennemis pour l'accabler. Cercueils immenses creusés sous les murs de Leipzig, lugubre majesté de ces vastes tombeaux, inspirez donc mes souvenirs dans mes sanglantes narrations, et apprenez-moi comment on peut parler dignement du trépas glorieux de 100 000 héros. Ce n'est pas un historien militaire ni un écrivain politique que je vais essayer de faire connaître toutes les belles horreurs de ce tableau de sang. Non, fidèle à mon titre et à mon plan, c'est toujours en philosophe observateur, en peintre philanthrope, que je tâcherai de crayonner quelques esquisses imparfaites et de suivre dans les fameuses journées des 17, 18 et 19 octobre 1813, le char sanglant de Mars, répandant la mort dans un espace de 10 lieues et ne laissant jamais arrêté dans ses affreuses destructions par les obstacles de la nuit. La bataille de Berlin, dans laquelle la fumée de l'artillerie française effleurait déjà les clochers de cette capitale, avait été perdu et tous les corps concentrés ensuite sous Leipzig lui formaient une vaste ceinture de bataillons impénétrables. Ce fut ce théâtre que toute la Ligue choisit pour décider des destinées de l'Europe. Ainsi, malgré un temps brumeux et quelquefois pluvieux, malgré la bise des nuits, le feu de la valeur circula soudain dans tous les cœurs français, et le premier coup de canon fut, à nos immortelles phalanges, une commotion électrique de gloire qui les embrasa tout du même ardeur de vaincre. C'est donc ici, sur une herbe 1000 fois brisée sous les pieds de chevaux, que des escadrons fougueux, sous la conduite d'un clairon éclatant, rompent d'un éclat intrépide des murailles cimentées de Russes, de Suédois, de Prussiens et d'Anglais. La victoire est-elle remportée sur un point? Elle est perdue aussitôt sur un autre. Nos escadrons, vainqueurs d'un premier rideau de troupes, deviennent la victime d'une ruse de guerre et trouvent la mort sur un volcan d'artillerie que ces mêmes troupes masquaient. Partout, la cavalerie légère, semblable à une faux rapide qui, sous les mains du laboureur, fait tomber les trésors de Cérès, jonche le terrain de monceaux de cadavres. et le nombre accumulé des morts et des mourons forme seul un rempart favorable aux légions fugitives. Dans cette rage épouvantable, au milieu de ces éclats de tonnerre artificiel, une pluie de sang tombe sans cesse et remplit les sillons de flots de pourpre. Des membres humains souillés de fange reposent confondus avec des membres d'animaux immondes. La tête d'un taureau, naguère l'effroi des vallons, l'orgueil des troupeaux des hameaux voisins, celle d'un tendre génisse se groupe dans un mélange horrible avec le corps ensanglanté d'un canonnier massacré près de sa pièce. Assemblage affreux! Les chevaux qui traînaient cette même pièce, tués à ce bivouac par le boulet, ont mêlé l'écume de leur sang au sang des artilleurs. Dans cet amas de chairs mortes et boueuses, les dents d'un cheval sont imprimées sur la figure d'un cadavre. Et l'un et l'autre, bouche à bouche, dans une lente agonie, se sont envoyés les dernières angoisses de leur mort. Spectacle hideux et encore imparfait. Vous pouvez exister et vous ne pourrez jamais qu'être faiblement décrit. Mais des épisodes, passons aux grands traits qui se développent à tous les horizons du point de centre. 30 villages en feu offrent des vigueurs de tombes magnifiques. Les flammes ondoyantes, le bruit des clochers qui s'écroulent donnent de temps à autre des coups sourds qui forment une basse sombre dans cette horrible harmonie. 1000 colombes apprivoisées s'enfuient à tire-d'aile de leur toit domestique, tandis qu'un nuage de corbeaux, accouru des contrées hyperborées à l'odeur du carnage, célèbre déjà dans leur croassement sinistre les folies guerrières des hommes qui vont leur fournir une humble pâture. Mais tous les sentiments humains doivent céder ici le pas aux intérêts pointilleux de l'honneur et de la gloire. « Ce village masque une batterie, » dit ce général d'artillerie. Aussitôt vint au but, messagers brûlants du trépas le réduisent en poudre. Ce beau château, ouvrage perfectionné de 10 siècles, peut receler les tirailleurs dangereux. Le feu doit aussitôt l'abattre. Bellone ne marchande jamais dans ses aveugles fureurs. Cependant, le seigneur de ce château, son épouse épouvantée et d'ailleurs mère de 2 jeunes beautés, tout surpris et cerné par le fait du combat, vont courir à une mort certaine au milieu du feu et des ruines. Il faut vaincre à n'importe quel prix. Et quand l'historien parlera de la gloire des armes d'une nation, il ne daignera pas seulement s'informer si le sang de 1000 victimes innocentes isolées sur un tertre obscur y aura coulé. Ainsi, tandis que les châteaux, des maisons de plaisance et maints villages deviennent la proie des flammes, que des bestiaux consumés dans des étables, dans des granges, donnent l'image d'une destruction générale, que les villageois, les vieillards caducs surtout, se traînent sur leurs béquilles et que de jeunes paysannes échevelées se précipitent entre des escadrons poudreux et trouvent la mort dans le ricochet d'un boulet égaré, les princes, les maréchaux, les généraux, toujours calmes et froids au milieu de ce vaste incendie, président à l'ordonnance de la mort avec un flegme imperturbable, et la carte à la main, par l'art d'une science topographique, savent à point nommé dans quel terrain on peut creuser le plus de cercueils à l'ennemi. Science funeste, science sortie des enfers, mais quand cesseras-tu donc de déployer ton affreuse tactique? Mais les ombres de la première nuit de cette sanglante bataille éteignent déjà insensiblement la lumière du jour. L'homme les voit descendre avec un secret des plaisirs. On ne pourra plus discerner ses victimes dans l'obscurité. Il faudra attendre l'aurore pour se livrer à de nouveaux massacres. L'arme blanche doit être oisive et il ne reste plus que le feu du salpêtre pour s'entre-détruire. Vous apercevez donc de tous côtés comme des éruptions de flammes volcaniques. C'est la lumière du canon qui tire sur les colonnes dont on a découvert le mouvement au moyen de pots à feu. Et le chaos d'une chaîne de montagnes en amphithéâtre, derrière les armées, apprenant à de villes éloignées qu'on s'égorge à 20 lieues d'elles, les laisse dans la plus vive inquiétude sur l'issue du combat. Mais pendant cette même première nuit, tandis que les blessés arrivent en foule à Leipzig, à pied dehors des caissons ou sur des brancards, que les habitants consternés, ayant reçu l'ordre d'éclairer leurs rues et leurs fenêtres, ouvrent leurs portes au courage malheureux, que les femmes s'empressent de porter des paquets de charpie dans les hôpitaux, et que souvent encore 20 amputations se font dans leur riche salon, qui le surveille d'avoir été le théâtre d'un cercle brillant, et qu'enfin les lance à la congrève voltige sur le sommet des maisons, toutes les dispositions ont été prises pour que le second acte du drame sanglant soit égal en horreur aux horreurs du premier acte. À peine le petit jour a-t-il donc éclairé l'arène, que toutes les machines homicides sont en mouvement, les munitions renouvelées et le sang, à peine refroidi sur les lances, va se mêler à un nouveau sang. La fatigue du bivouac, les privations de la faim, rien n'est capable d'attiédir la valeur française. Et pour bien se battre, nos régiments n'ont besoin que de force morale. Les sections se forment, les chevaux s'alignent, on distribue des cartouches, le soldat en prend aussi dans sa giberne de son camarade tué la veille, et dont le cadavre pendant la nuit lui a servi d'oreiller. Il se dispose, il essuie la cervelle qui a rejailli sur sa figure, il échange ses armes contre des meilleurs, et sans penser au danger, ne songe qu'à la gloire de son régiment. Mais pendant cette distribution de cartouches, une lance fatale vient à tomber sur les caissons ouverts. Tout saute dans une horrible explosion. Hommes, chevaux, canons, tout est dispersé. Et des éclats vont encore loin porter la mort dans les rangs d'une réserve qui attendait l'arme au bras, l'honneur de participer bientôt au combat. Mais ces pertes de pur détail ne sont que des épisodes insignifiants de la guerre. Et tel qu'à une table de jeu où des altesses risquent quelquefois la valeur entière d'un riche domaine, on ne remarque pas ces pontes insignifiants qui hasardent obscurément quelques pièces d'or. De même aussi 20 caissons sautés, 100 artilleurs mis en lambeaux, n'empêcheront pas la représentation meurtrière de la pièce. Et pour un machiniste de moins, 1000 vont le remplacer. Laissons aller ces malheureux artilleurs, aveuglés, défigurés, et comme des Édipes sans Antigone, deviner le chemin de l'hôpital qui doit devenir leur tombeau, et retournons parmi ces masses mobiles qui, semblables à des Vésuves ambulants, ne s'arrêtent que pour lancer méthodiquement leur foudre. Que faisait le chef au milieu de cette immense boucherie? Il luttait en vain contre le destin dont la main de fer s'appesantissait de tous côtés sur ses valeureuses cohortes. Il cherchait à faire face à tous les périls, s'apercevant, mais trop tard, qu'il était déjà tourné à 30 lieues de là par des nations entières. Ce n'était donc que pour cueillir des lauriers inutiles que nos corps d'armée prodiguaient leur sang. Ce n'était donc que pour se faire admirer dans des efforts impuissants que l'infanterie marine se jouait à Leipzig des dangers, comme elle avait bravé maintes fois les abîmes de la mer. Toutefois, on est à la seconde journée de la bataille et le carnage ne cesse pas. Des hurrahs épouvantables pénètrent en pleine midi dans les faubourgs de la ville. Des obus roulent dans les toitures, des maisons brûlent, le canon approche et nos corps d'armée repoussés menacent de prendre la ville pour unique refuge. Dans ce péril imminent, le roi de Saxe, la jeune princesse quittent leur palais et se réfugient sur la place dans un hôtel gardé par deux bataillons de grenadiers saxons. Conséquemment, ce n'est plus un combat éloigné dont la distance permet toujours un libre champ aux conjectures heureuses ou défavorables. Le sang désormais va couler dans les places publiques, dans les maisons. Les hôpitaux, les églises, les palais encombrés ne seront plus que des cloaques infectes de membres coupés, de cadavres et d'excréments. Chaque coin de borne devient le dernier asile d'un blessé qui, affamé de nourriture, engloutit dans son estomac des restes fangeux et meurt sur la boue qui lui a servi de lit. Malgré tous ces fléaux réunis, l'ordre est donné et l'histoire recueillera ce fait à tout amputé seulement d'un membre de quitter la place. Ainsi, ce n'est qu'après avoir eu deux bras ou deux jambes coupées qu'on avait acquis le droit funeste de rester dans ce séjour d'horreur. La terreur, l'intérêt des grandes sensations, l'effroi sont inspirés sur tant de points que l'observateur, que le philosophe ne sait où fixer sa pensée dans ces grands spectacles de l'âme. De tous côtés, il jouit des douloureux frémissements de la terreur. Il est en quelque sorte fier de marcher encore vivant au milieu de tant de ruines, tel qu'un rocher inaccessible à l'impétuosité des vagues. Se dégageant de l'enveloppe méprisable des idées vulgaires, l'âme, dis-je, ne laisse pas de s'élever dans ces scènes majestueuses de la mort, tout en explorant la cause terrible. Ainsi, qu'importe qu'une famille éplorée fasse entendre tes cris dans cette maison voisine, que de tendres vierges tombent profanées sous les baisers d'une bouche brutale et encore noircie de poudre, que cet enfant soit sabré dans son berceau, que la tête chauve de ce vieillard soit partagée d'un coup de briquet et que le sein de cette jeune épouse, étendue dans son appartement dans une attitude qui révolte la pudeur, porte encore le tronçon de l'épée dont elle a été percée. Tous ces actes isolés sont sans doute affreux, épouvantables, mais ce n'est pour l'historien que des accessoires qui doivent être seulement indiqués loin du plan principal de la scène. Quoique, d'un crayon rapide, nous pensons avoir déjà suffisamment donné au lecteur qui n'a jamais vu de pareil spectacle une idée assez étendue d'une bataille décisive, entreprendrons-nous de dépeindre encore toutes ces douloureuses particularités qui se multiplient à chaque pas, tels que ces blessés renversés, heurtés par les chevaux, et qui sont brisés sous les roues d'une pièce de 12. Le tableau touchant de ce brave général, porté par 8 grenadiers de la garde sur les branches touffues, qui semble un amas confus de lauriers. Ce même général, ordonnant à ce généreux militaire de retourner au champ d'honneur et de l'abandonner au sort de ses blessures mortelles. Toutes ces peintures ne pourraient manquer sans doute d'émouvoir fortement son âme, mais combien elles sont insignifiantes auprès de la réalité. Ce n'est vraiment qu'après avoir participé au danger et à l'action qu'on peut méditer avec quelque attrait sur toutes les horreurs d'un tel souvenir. À cet égard, je me rappellerai toute ma vie les pleurs glorieux, héroïques de ce jeune colonel du Sarre qui, le pied brisé d'un coup de boulet et la jambe pendante près des arçons, et offrant qu'un amas informe de fragments d'os en éclats, de sang fangeux, d'éperons cassés, ne gémissait que des malheurs de son régiment aux deux tiers massacrés, et cherchait dans les rues, sur la place, à former un noyau de ses braves afin de venger, tout blessé qu'il était, la mort de ses compagnons de gloire. Là, c'est une scène de grandeur d'âme, ici un trait de barbarie, la honte des nations civilisées. Des officiers malades, blessés, sont chassés de leur logement par des hôtes, par des laquais sans pudeur, qui ont l'infamie de violer le caractère sacré d'un militaire blessé par des outrages et des voies de fait humiliantes. Tandis que, dans l'hôtel voisin, de jeunes personnes prodiguent leurs soins hospitaliers à des grenadiers de la vieille garde. Le pinceau ne sait quelle nuance saisir dans cette bigarrure de monstruosité. L'homme sensible y est ému en une seconde de mille sensations douloureuses ou attendrissantes. La bienfaisance s'exerce à côté de la cruauté des Kalmouks de la Sibérie ou d'un Houston de l'Amérique méridionale, et l'écrivain y est dans la nécessité de rétracter à chaque instant ses jugements. Mais au reste, tous ces événements ne sont, si je puis m'exprimer ainsi, que de petites succursales de la métropole. Les masses agissent toujours, et si un grand nombre de barques légères sont déjà submergées dans ce naufrage, le vaisseau de Bellone n'en moque pas moins à pleine voile, sur une mer de sang, malgré le fracas des tempêtes. Cependant, le vaisseau des Français, pour suivre cette métaphore, désormais était obligé d'éviter le combat, l'ennemi ayant tourné et devancé l'armée dans le défilé des Salines occupées par le prince Bernadotte. Et, nonobstant ce danger, 60 000 Bavarois, à cheval sur la route de Hameau à Francfort, coupaient entièrement la retraite du Rhin. Il ne faut donc plus songer qu'à la retraite, et ne cesser quelque temps de vaincre que pour en ressaisir ensuite une occasion plus favorable. Nous approchons de ce moment terrible où l'explosion d'un pont placé sur l'Elster, près des boulevards de Leipzig, fut le signal du sacrifice épouvantable de 40 000 hommes qui, comme les 300 Spartiates de Léonidas au défilé des Thermopyles, furent immolés à la conservation du reste de l'armée. Vous étiez là, braves et généreux Polonais, toujours au poste le plus périlleux. Vous formiez l'avant-garde dans les succès, l'arrière-garde dans les revers. Je vois encore vos lances réduire des rayons passagers d'un soleil nébuleux. J'admire encore votre air martial, français pour la valeur, polonais pour la fidélité. Je vois, dis-je, votre jeune et généreux prince, l'illustre Poniatowski, dont l'ombre auguste immortalisera les rives de l'Elster. Dans l'âge des tendres passions, il n'a connu que celle de l'honneur et de la gloire, et malgré les larmes d'une épouse, les caresses d'un fils, il s'est arraché de leurs bras pour voler où son devoir l'appelait. À la tête de ses escadrons, qu'il est beau dans ce brillant costume de colonel général. Ce n'est pas son crachat, ni ses décorations éclatantes de pierreries qui attirent mes regards. C'est cette physionomie gracieuse et à la fois imposante qui trahit parfois les sentiments de vive inquiétude dont il est agité. Les corps d'armée qui appuient leur droite et leur gauche sur les flancs de ses escadrons ne lui paraissent, comme lui, que de glorieuses victimes dont le sacrifice nécessaire doit assurer le salut de l'armée. Mais pendant que notre héros oppose sur les boulevards de Leipzig un front impassible aux boulets, aux obus, aux balles qui déciment ses régiments, le pont, oh de meurtrière mémoire, s'encombre d'équipages, de roues blessées, risées, de chevaux abattus. Les obus y tombent, les cadavres, les mourants s'y multiplient. Et 2 heures d'après-midi, dans la fatale journée du 19, ce n'est plus que sur 3 couches de débris de toute nature que l'on parvient à franchir ce passage terrible, à travers les pieds des chevaux qui se débattent, les bras élancés des soldats qui cherchent à se relever par votre propre chute, et les éclats d'obus qui frappent 2 fois sur des cadavres nus, trop heureux de n'avoir eu qu'une vie à perdre, et dont la dépouille insensible se joue des nouveaux trains du drépas. Les entourages sont également épouvantables. Les maisons voisines s'écroulent et ensevelissent sous leurs ruines les colonnes pressées qui s'y étaient formées un passage. Le fleuve charrie déjà des fragments de toute espèce, présage funeste d'une ruine totale. Les coups de fusil partent de tous les quartiers adjacents occupés par les Suédois. Les trésors sont pillés, les coffres brisés à coups de hache. Et l'on éparpille dans la boue et bientôt abandonné par les hommes qui voient de tous côtés une mort certaine planer sur leur tête. À l'artillerie mobile de l'ennemi se joint le feu de l'artillerie de position et de celle des remparts. Le boulet, plongeant d'aplomb sur des masses d'hommes refoulés, y cause un ravage horrible. Et il ne peut, probablement, sa force, qu'après avoir pénétré dans sa course homicide une grande épaisseur d'os et de chair. Enfin, ce pont miné, ce pont traversé de fougasses et garni dans ses culées de 4 milliers de poudre, saute en lançant dans l'air des entrailles fumantes, des têtes bizarrement tranchées par les effets singuliers de la poudre, des roues, des coffrets, des casques, des shakos, des pierres énormes, des tronçons de cadavres, des chevaux entiers qui, après avoir figuré dans l'air à travers une épaisse fumée embrasée, une des éruptions du mont Etna, retombe simultanément dans le tombeau commun, je veux dire, les ondes de l'Elster qui devaient les engloutir. Plût à Dieu que cet horrible désastre, quelquefois justifié par les circonstances de la guerre, eût été le dernier de cette journée. Mais l'ennemi s'étant convaincu aussitôt par la destruction du pont que tout moyen de salut était désormais enlevé au corps de réserve et d'arrière-garde dont l'illustre Poniatowski faisait partie, fondit avec impétuosité sur eux par toutes les issues praticables, en ne laissant aux vaincus d'autre alternative que la mort ou le passage à la nage d'une rivière encaissée et garnie sur ses rives d'un mur de pierre de taille qui en rendait l'accès impossible aux hommes et surtout aux chevaux. Et c'est là que se précipitèrent ce qu'avait épargné le fer ou le feu des Russes, la lance des Cosaques et la carabine des voltigeurs suédois. C'est là, dis-je, que se plongèrent tout armés, comme le firent plusieurs héros romains dans le Tibre, et cuirassiers, et dragons, et fantassins, et grenadiers, préférant des nouvelles chances de ce genre de fuite à une captivité humiliante. Ce fleuve fut donc couvert en peu de minutes de corps à demi noyés, de têtes égarées, éperdues, d'hommes dont l'œil effrayé par l'aspect de la mort qui les attaquait sous tant de formes produisait sur la surface des eaux un effet épouvantable. Les uns, peu judicieux dans leur aveugle désespoir, s'étant jetés tout chargés du poids de leurs armes, de leurs cuirasses, cessaient aussitôt d'être acteurs sur ce théâtre d'eau et de sang. Et ces mêmes armes qui tant de fois avaient fait leur gloire causaient leur perte. Un jour viendra que le fleuve, mis à sec par les vicissitudes du temps, offrira à la postérité ses squelettes étranges des guerres du XIXe siècle, et leur armure dira assez que c'était des Français qui vainquirent l'Europe pendant 20 ans. Voyez-vous encore ce chasseur cupide qui, dans ce jour d'extermination, est tout entier à sa passion favorite, l'intérêt? Un baril d'or dérobé au trésor italien et attaché sur ses épaules, il se confie aux eaux de l'Ulster. L'imprudent périt par le poids de l'objet qu'il croit sottement devenir en France celui de sa fortune, et le fleuve engloutit l'homme et son pesant métal. Celui-là arrive miraculeusement de croupe en croupe à l'autre bord. Celui-ci, quoiqu'arrivé, y meurt atteint d'un coup de balle. Plus d'un tableau dramatique, ainsi qu'à la Bérésina, y vient épouvanter les regards. Cette malheureuse vivandière, haletant encore de sa longue course, son enfant dans les bras, pense se sauver à la faveur de son cheval, mais tout bientôt ne fait plus qu'une boule. Et ce qui se laisse encore entrevoir à travers l'écume des vagues agitées par la multiplicité des chevaux sont des petites mains d'enfants qui articulent les dernières expressions du délire de l'asphyxie. Nous n'avons donc nullement besoin ici de faire intervenir la magie de nos enchantements et de nos prodiges. Le vrai, sous le rapport de tant d'horreurs cumulées, cesse souvent d'être vraisemblable dans le troisième acte de ce drame sanglant. Que servirait d'ailleurs le spectacle de vain prestige, de puéril féerie, quand l'histoire vous fournit un trait aussi beau que le dégouvement de Poniatowski? La victoire est devenue impossible, se dit-il. Le désordre est au comble, mais tout chemin mène à la gloire. Et j'y vole par celui d'une mort certaine. Ainsi, dans cette magnanime abnégation de soi-même, il élance son fougueux coursier dans le fleuve avec ce calme imperturbable partage des héros. Cependant, il n'a pas vu sans attendrissement son ami, son meilleur ami, frappé à ses pieds d'un coup de balle qui a fait jaillir le sang de son front. Il le plaint encore dans sa course rapide et envie secrètement son sort. Hélas, il ne tardera pas à le suivre, car vainement le superbe cheval de race qu'il monte fait-il des efforts prodigieux pour gravir la muraille escarpée de l'autre rive. Inutile tentative. Poniatowski, l'infortuné Poniatowski, s'est couvert de gloire, il est vrai, mais aussi des ombres du trépas. Le froid a saisi ses sens, la confusion a nui à son salut, et ce n'est que 3 jours après que l'on parvient à retrouver son corps, dont les naïades de l'Elster sont glorieuses en secret de recevoir l'immortalité. Ses obsèques, sans doute, ont été dignes de ce personnage illustre. Sa patrie lui a rendu les honneurs que méritait sa cendre. Mais nos yeux sont-ils essuyés, nos cœurs cicatrisés du coup d'une si grande perte? Non, ils saignent encore, et tout homme juste appréciateur du courage et de la gloire n'a pas jeté ses regards sur la gravure qui représente la fin déplorable de ce prince sans se sentir pénétré d'un attendrissement douloureux. Que sera-ce donc quand, nouveau Sterne, le voyageur ira sur les bords de l'Elster appesantir sa mélancolique pensée sur l'endroit même où périt le malheureux prince Poniatowski? Après un siècle écoulé, il ne pourra s'empêcher de verser des larmes comme sur un malheur présent. C'est donc là, se dira-t-il le cœur oppressé, qu'a péri le plus brillant des héros. Et de là, passant au champ de Leipzig, il se fera dire par le laboureur en quel lieu sont creusés ces gouffres, ces larges fosses qui ont enseveli tant d'ossements et de cadavres. Mais les habitants de Leipzig, le menant sur les remparts, c'est ici, lui apprendront-ils, dans ces immenses fossés circulaires, que 10 000 ouvriers n'eussent pas comblé dans un travail de 2 ans, que nos ancêtres ont précipité les innombrables victimes de Bellone. Hommes, chevaux, armes, débris, toutes ces ruines ont servi à réaliser un plan depuis longtemps reculé, faute de moyens d'exécution, et la mort en a fourni les matériaux. Ayant considéré qu'il eût été impossible d'ensevelir tant d'objets putrides sans encourir les dangers de la peste, ils ont décidé qu'il fallait profiter d'un vaste cercueil tout près, et le terrain ayant été nivelé par quelques couches de chaux et de terre, nous foulons maintenant sous nos pieds la cendre de nos vainqueurs et de nos alliés. Ombres sanglantes, ombres illustres, calmez votre désespoir. Vos gémissements ont été recueillis dans le sein de la patrie, et vous y avez, ainsi que Poniatowski, des autels dont tous les cœurs vraiment français.